Le 9 juin, ce sont les élections européennes. C'est un scrutin en un tour, à la proportionnelle, où vous votez parmi des listes de 81 personnes, mais où seules celles collectant au moins 5% des suffrages obtiennent des élus au Parlement européen. En 2019, c'était près de 50% d'abstention et 27 listes sur 33 qui obtenaient moins de 5% et représentaient 20% des votants environ, soit 10% des électeurs environ. Ainsi, en 2019, les députés français élus représentaient seulement 40% des électeurs français. C'est un fait, le reste n'était plus représenté. Et encore, quand on parle de représentation, sans contrôle des citoyens, qui les députés représentent-ils? Leur parti? Des lobbies? Chaque député élu représente environ un budget de 400 000 euros par an, entre ses indemnités et les salaires des assistants. C'est une vraie manne financière pour les partis politiques. Qu'en est-il de leurs programmes et de leurs promesses? Sachez que le pouvoir de proposer des lois au Parlement européen revient à la Commission européenne et non pas au Parlement. La Commission européenne, c'est un groupe dont les membres sont désignés par le pouvoir exécutif des différents pays membres. Nous avons donc des pouvoirs nationaux exécutifs qui désignent arbitrairement, sans aucun contrôle citoyen, le pouvoir exécutif européen, qui détient également le pouvoir de proposition législatif européen. Cependant, les députés européens ont tout à fait le droit, comme les lobbies également, de proposer des lois aux membres de la Commission qui décident alors de les soumettre ou non au vote du Parlement. Il est donc difficile de promettre plus d'écologie, de démocratie et de social dans ce contexte. Mais cela ne dérange pas nos politiques. François Hollande affirmait récemment devant la journaliste Salomé Sacquet que la politique, c'est faire rêver pour ensuite, une fois au pouvoir, décevoir. Cette vision qu'exprime un ancien président de la République explique facilement l'abstention grandissante et la montée des extrêmes. Mais alors, que peut-on faire? Rejoindre les abstentionnistes pour laisser la politique politicienne nous diriger et élargir encore et encore le chemin de l'abstention, de la frustration et des extrêmes? Ou voter pour des idées qui ne font pas le poids au Parlement mais dont l'écho résonne légèrement dans la société? Il faut évidemment changer. Changer avant qu'il ne soit trop tard. Mais changer pourquoi? À la Révolution française, les philosophes des Lumières avaient préparé le terrain. Mais attention, relisez l'histoire et vous verrez que le système actuel est davantage teinté des désirs de bourgeois libéraux et de pro-monarchistes que des aspirations démocratiques des Lumières. Mais j'y reviendrai plus tard. Revenons sur l'Europe et cette élection. Nous pouvons classer les listes candidates en trois groupes. Celles qui aiment l'Europe telle qu'elle est, celles qui aiment l'Europe mais veulent la changer, et enfin, celles qui ne croient pas en l'Europe et veulent en sortir. L'Europe est une bonne chose, car elle prend sens avec l'expression l'union fait la force. Oui, l'Europe et ses membres sont mieux placés pour garantir la paix, négocier avec les puissances étrangères, garantir une monnaie forte, renforcer la solidarité qu'une nation seule ne pourrait garantir. C'est l'Europe qui protège. Les échanges entre les pays sont aussi simplifiés avec Erasmus, les programmes de recherche communs, comme l'aérospatiale, la monnaie unique. Ce sont quelques-uns des arguments de ceux qui aiment l'Europe. Et ce sont ceux qu'ils vont utiliser pour vous convaincre, promettre une Europe forte. En vérité, ces arguments sont souvent l'arbre qui cache la forêt, car derrière, il y a toutes les propositions néolibérales qui sont ensuite mises en place au Parlement dans le dos des citoyens. Et c'est principalement sur ce point que le groupe qui n'aime pas l'Europe va appuyer pour convaincre. Oui, l'Europe impose à la France. Oui, la France perd une part de souveraineté avec l'Europe. Et oui, la majorité néolibérale fait que l'on peut parler d'Europe de l'argent. Car les propositions qui n'étaient pas explicitement écrites dans les programmes ont permis à l'Assemblée européenne le dumping social, les traités de libre-échange des marchandises, les délocalisations. Mais on rencontre ces problèmes également en France. Les villes, les régions ne choisissent pas toutes seules les lois qui s'appliquent à elles. Le pouvoir est centralisé à Paris au lieu d'être à Bruxelles. Chaque zone devrait-elle faire sécession pour conserver sa souveraineté? Pourquoi devrait-on croire que l'échelle de la France est plus légitime pour décider que l'échelle des régions ou de l'Europe? Il faut réfléchir à comment organiser tout cela. Pour désigner vos représentants au Parlement européen, vous devez voter. Mais aux élections à tout niveau aujourd'hui, régional, national ou européen, quel est le sens du vote? Vous votez pour une personne, un programme, des valeurs ou un parti politique? La vraie raison du vote est assez floue. Si vous votez pour une personne, aux européennes, c'est des listes de 81 noms. Les médias invitent principalement les têtes de liste, sachant qu'au minimum, en vérité, ce sont les quatre premières personnes de la liste qui seront élues avec le seuil de 5%. Est-ce que l'État et les médias vont vous permettre de connaître objectivement le CV de chaque personne de la liste, leur historique de travail? Non. Il faut faire un travail de fourmi pour l'obtenir. Et puis, vous ne connaissez bien que ce que les médias acceptent de vous présenter. Et la règle est la suivante. Plus le parti a déjà du pouvoir, plus il était déjà présent pendant 5 ans dans les médias, plus vous devez continuer à l'écouter et à le voir pendant la campagne. Voici la notion de justice et d'équité en France, écrite noir sur blanc dans les règles de l'ARCOM. Les nouvelles idées auront les miettes. Donc effectivement, le culte de la personne lié à notre système médiatique et électoral peut expliquer que les citoyens votent pour une personne. Vous votez pour un programme? Comme évoqué auparavant, il s'agit davantage de promesses que de programmes. Et impossible de distinguer dans le programme les mesures consensuelles des autres. Qui est vraiment d'accord à 100% pour un programme? Voter un programme, c'est presque la garantie d'être déçu. Vous votez pour des valeurs? Attention, mon ennemi, c'est la finance, peut rapidement devenir le CICE et la loi travail, et un peu plus tard, mettre Emmanuel Macron au pouvoir. Les valeurs en politique, c'est comme les chemises. Les élus ne sont pas révocables et n'ont pas d'engagement réel envers leurs électeurs. Vous votez pour un parti politique? Alors, effectivement, votre voix renforce le parti. Il gagne en légitimité, en moyens de propagande, en financement. Soulignons tout de même que le système de parti politique viole le principe de séparation des pouvoirs, ce qui est essentiellement vrai dans les systèmes communistes, où les pouvoirs exécutifs et législatifs sont détenus par un même parti majoritaire. En outre, les partis politiques appliquent souvent les règles classiques de notre système en matière d'élection et de programme, culte de la personnalité, filtre médiatique, etc., etc. Notre démocratie représentative réside dans le vote. C'est lui qui concentre la souveraineté populaire. Lorsqu'un parti obtient 51% des voix, il s'auto-félicite généralement que la démocratie ait parlé. Alors oui, le peuple s'exprime en moyenne une fois tous les 5 ans, soit un jour sur 1826. On parle de régime plus ou moins démocratique. Il est donc possible de comparer deux systèmes et d'envisager une échelle démocratique. Puisque la démocratie est étymologiquement et par essence le pouvoir au peuple, une démocratie à 100% est forcément un système où le peuple a le pouvoir en continu. C'est la démocratie directe, 365 jours par an. Nous pouvons considérer l'échelle temporelle pour calculer le niveau de démocratie d'un système. Puisque le peuple s'exprime un jour sur 1826, nous pouvons considérer que la France est un système à 0,055% démocratique. Et cela dans l'hypothèse où la personne élue correspond bien au choix majoritaire du groupe et que le programme annoncé est réalisé. Sinon, quelle est la valeur du vote? Quelle a été la valeur du vote en 2005 lorsque les citoyens européens se sont prononcés contre la Constitution européenne et où les changements ont été appliqués par la Commission européenne dans le traité de Lisbonne? À l'inverse, un système où un petit groupe a le pouvoir est caractérisé par le terme oligarchie ou aristocratie. Selon que le groupe soit autoproclamé dans le cas de l'oligarchie ou désigné par des règles visant à sélectionner ses membres parmi les meilleurs dans le cas de l'aristocratie. Nous retrouvons donc, dans la France, dans l'Europe et dans nos systèmes occidentaux, une république de type aristocratique. Définition qui correspond exactement à celle que fait Montesquieu de notre système actuel. Le problème de l'Europe, comme celui de la France et de nos républiques occidentales, réside dans le système politique. Le problème serait le même si tous les pays du monde vivaient ensemble, régis par un même système politique inspiré de notre système actuel. La frustration, la déception, la colère et l'abstention sont les conséquences du système. Ce problème est historique et gangrène notre société et son avenir. Il fait suite à une série de hold-up politiques qui ont eu lieu autour de la Révolution française. Aujourd'hui, l'utilisation du mot démocratie et surtout la volonté de l'utiliser pour désigner ce qui arrange les politiciens est un problème. Une démocratie, est-ce un pays libre? La liberté se limite-t-elle à la liberté de déplacement? En France, personne n'est libre de se déplacer où il veut. Il y a des espaces privés, des espaces publics sécurisés, donc la liberté se cantonne à l'espace défini par l'État. Si l'État est une démocratie politique, alors ces espaces sont définis par les citoyens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que la démocratie concerne la liberté d'expression? Encore une fois, le peuple souverain peut la limiter pour éviter des propos racistes ou offensants. Il est même possible qu'une grande majorité du peuple décide d'interdire certaines pensées de manière démocratique. Nous aurions donc un pays non démocratique dans la liberté de s'exprimer, mais politiquement démocratique? C'est bel et bien la source du pouvoir de décision qui détermine la nature du système politique. Une personne, on parle de despotisme. Si c'est un petit groupe, on parlera d'oligarchie et d'aristocratie. Et si l'on parle de l'ensemble des citoyens, on parlera de démocratie. Mais alors, doit-on appeler une république aristocratique une démocratie représentative? La question est plutôt de comprendre la différence entre mandat impératif et mandat représentatif. Est-ce que le représentant doit respecter la volonté du représenté? Le mandat impératif exige que oui. Par contre, le mandat représentatif n'oblige à rien. Sans contrainte ni accord explicite, le mandat représentatif ne peut se prévaloir de la démocratie. Mais alors, qu'est-ce que serait la démocratie représentative? Tout d'abord, ce serait un système avec un mandat impératif, démocratique, avec la capacité de révoquer l'élu à tout moment. Un système contraignant. Mais alors, quel serait l'intérêt de l'élu? En vérité, le vote n'est qu'une fonction de l'élu, et certainement le premier qu'il faut rendre au peuple. Mais le représentant peut être habilité à signer des documents, réfléchir à des propositions ou encore mettre en place des mesures. Un exemple de démocratie représentative serait la démocratie liquide. Je l'explique un peu plus tard. Alors, comment nous en sommes arrivés là? Il faut revenir à la période de la Révolution française. Le 20 juin 1789 est prononcé le serment du jeu de paume, qui donnera naissance le 26 août de la même année à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 2 ans plus tard, la Constitution de 1791 propose un système de type monarchie constitutionnelle, inspiré du système anglais, pour tenter de faire coexister la monarchie avec les nouveaux droits du peuple. Un an plus tard, c'est la fin de la monarchie, soit 3 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour la première fois, les députés peuvent réfléchir à un système sans monarque, sans despote. Et, durant l'été 1793, une constitution très décentralisée et démocratique, avec plus de 60 000 représentants votant les lois dans les cantons, est rédigée. Elle n'est malheureusement jamais appliquée à cause de la terreur. Mais qu'est-ce que la terreur? La terreur, c'est une période de répression violente menée par des députés qui cherchaient à protéger le tiers-État et le peuple du retour des pro-monarchistes. Suite à des abus et certainement au sentiment des bourgeois libéraux qui craignent de perdre leur autorité face au peuple, ces derniers provoquent la chute de Robespierre et la purge de la gauche pro-révolutionnaire au Parlement. C'est le retour de députés comme Sieyès, que Robespierre traitait de traître à la Révolution et qui était farouchement opposé à l'idée de faire de la France une démocratie, mais défendait le système représentatif. En effet, à l'époque de la Révolution, les députés distinguent la démocratie, que l'on retrouve chez Rousseau, Platon ou dans l'Antiquité en Grèce, à la République et son système représentatif. C'est alors une assemblée majoritairement de droite, composée de députés pro-monarchistes et de bourgeois libéraux, qui va travailler sur une constitution où les pouvoirs sont de nouveau centralisés à Paris dans les mains de quelques-uns. Peu de temps après, c'est Napoléon qui prend le pouvoir, aidé au passage par Sieyès. Depuis, nos constitutions ont été pensées pour centraliser le pouvoir et protéger les forces qui le possèdent. La France est passée du suffrage censitaire plutocratique au suffrage universel masculin, puis finalement, en 1944, après la Deuxième Guerre mondiale, au suffrage universel. Mais nos constitutions sont restées organisées sur un schéma pensé par les bourgeois et les aristocrates royalistes qui voulaient conserver le pouvoir. La France a su inspirer, grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les autres pays. Ces derniers se sont également emparés du modèle aristocratique de notre Constitution. Et l'Europe reprend ce modèle. La France a dit non en 2005. Pourtant, les modifications ont été apportées au système européen par le biais d'un traité. Encore une fois, le problème n'est pas l'Europe, mais le système. Ok, on change, mais alors pour quel autre système? En fait, la marge de progression potentielle est énorme. Imaginez, nous avons vu que nous sommes dans un système à 0,055% démocratique. Mais avant tout, ce système dont nous avons besoin, il faut le concevoir ensemble. Dans le passé, ce fut des députés ou des politiciens, souvent bourgeois, majoritairement à droite, en petit nombre, qui ont pensé la Constitution. Les citoyens avaient le choix entre le statu quo, forcément décevant puisqu'il a été proposé de le changer, et une unique alternative qui promet de régler les problèmes. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'essayer de concevoir un système ensemble. Des initiatives privées, associatives ou individuelles ont permis de développer des outils de participation et d'intelligence collective. Et la grande innovation depuis la naissance de la Ve République, c'est Internet. Mais nous savons aussi qu'il y a les exclus du numérique. Nous pouvons avoir le recul nécessaire pour concevoir un meilleur système, inclusif, plus respectueux du citoyen et en mesure de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux à venir. Mais comment on s'y prend? Il faut des moyens. Il ne faut pas trop compter sur le pouvoir en place pour organiser cela de manière impartiale et honnête. On a vu ce que ça donnait avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est là que je vous propose d'intervenir. Utilisons le mandat de député européen, de 5 à 15 députés, pour coordonner un processus de réflexion d'une constitution européenne et nationale. Offrons-nous les moyens d'organiser des réunions localement, de développer des outils pour réussir à faire émerger, dans 5 ans, une proposition crédible de système politique réellement démocratique. Pour rappel, chaque député élu représente un budget de 400 000 euros annuellement. Cette liste que je vous propose de construire et de choisir, ce n'est pas pour décider à la place des citoyens à Bruxelles ou à Strasbourg. Il y a 720 députés au total. Ce n'est pas une dizaine de moins qui changera quelque chose aux décisions qui sont, dans tous les cas, filtrées par la Commission européenne. Mais encore une fois, quelle meilleure expérimentation que les cas concrets du réel. Nous pourrons très bien évaluer les outils d'intelligence co collective en les appliquant sur les mesures soumises au Parlement et décider avec les citoyens de l'action à mener au Parlement en fonction des résultats, une forme de mandat impératif expérimental. L'ambition est donc d'offrir une alternative pour ne pas se retrouver dans le cas des printemps arabes où, après la révolution, les systèmes envisagés étaient finalement le reflet de la médiocrité passée. Les philosophes des Lumières avaient réfléchi le système avant la révolution, et c'est de leur apport qu'est née la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si le siècle des Lumières s'est terminé il y a 200 ans, il est peut-être temps de rallumer la lanterne avant que l'obscurantisme n'arrive. Pour réussir à coordonner ce grand processus citoyen constitutionnel, nous ne partons pas d'une page blanche. Et je vais vous présenter quelques réflexions et innovations démocratiques que nous pourrons mettre en œuvre rapidement au début du processus et au début du mandat. La première réflexion concerne la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, vous savez qu'il est accepté que les pouvoirs sont législatifs, exécutifs et judiciaires. Vous savez aussi que dans une bonne république, il faut qu'ils soient séparés. Attention, la séparation en trois pouvoirs est une conceptualisation inspirée de Montesquieu. Elle n'est pas unique. Alexis de Tocqueville, contemporain de Montesquieu, en avait une autre. Ce qui est important, c'est la notion de séparation. Deux pouvoirs sont séparés quand les règles qui les régissent sont indépendantes. Dans notre cas, pour plusieurs raisons, les pouvoirs exécutifs et législatifs ne sont clairement pas séparés. L'exécutif peut soumettre des lois au législatif et imposer certaines règles, comme le 49.3. Tandis que le législatif peut également révoquer, selon certaines procédures, l'exécutif. En cas de vraie séparation, le seul élément commun est la loi. Le législatif la décide, l'exécutif la met en place, et le judiciaire la contrôle et la juge. De plus, le système de partis politiques viole clairement la séparation des pouvoirs. En effet, un parti politique majoritaire, qui serait en charge de l'exécutif et du législatif, dispose du contrôle sur deux pouvoirs. Cela explique les dérives autoritaires fréquentes des systèmes républicains, en particulier communistes, où prédomine le concept de parti unique. La séparation du pouvoir est une condition indispensable pour une bonne république. Elle est plus compliquée dans une vraie démocratie où l'ensemble du peuple possède l'ensemble des pouvoirs. Cependant, lorsque les pouvoirs sont indépendants, ils peuvent être régis par des systèmes politiques différents. C'est d'ailleurs le cas en France. Les responsables du pouvoir judiciaire ne sont pas choisis par les citoyens. Il ne s'agit pas d'un système électoraliste, mais plutôt technocratique. Le système exécutif français est un système présidentiel. Enfin, le système législatif est un système aristocratique électoral, direct pour l'Assemblée nationale et indirect pour le Sénat. Et nous, citoyens, que voulons-nous? Commençons par repenser les pouvoirs en termes de séparation. Que voulons-nous séparer pour mieux organiser et protéger? Par exemple, l'instruction publique ou éducation ne devrait-elle pas être indépendante de la politique militaire? Est-ce que les décideurs et les règles de décision de l'un ne devraient-elles pas être différentes de l'autre? Aujourd'hui, on change de ministre de l'Éducation assez souvent. Est-ce une bonne chose à long terme? Est-ce normal qu'un président élu sur un programme général soit légitime pour décider de la politique à mener au niveau de l'éducation comme au niveau militaire? L'alimentaire, l'environnement et la santé, par exemple, ne devraient-ils pas être liés en termes de gouvernance? Ensuite, au sein d'un pouvoir, il y a des mécanismes. La proposition, la délibération, la décision, la mise en place, l'évaluation et peut-être d'autres. Quels sont-ils? Qui intervient? Comment les organiser entre eux? En fait, pour chaque mécanisme, on peut imaginer qu'un système politique s'applique. C'est le gros du travail du début de mandat si nous étions élus. Et qu'en est-il des premiers outils que nous pourrions mettre en place et expérimenter dans ce processus citoyen? Je vais vous en présenter quelques-uns. D'abord, la démocratie liquide. Certainement mon outil préféré. Qu'est-ce que c'est? Il existe des variantes, mais je vous présente la version que je privilégie. Premièrement, une assemblée est élue démocratiquement selon un scrutin le plus qualitatif possible. Les membres de cette assemblée ont la responsabilité de réfléchir aux propositions qui leur sont soumises et de s'exprimer publiquement durant la durée de leur mandat. Deuxièmement, en tant que citoyen, sur un thème choisi, l'économie par exemple, vous pouvez personnellement choisir une liste de citoyens ordonnés dont le dernier est forcément un membre de l'assemblée précédente. Ce choix, vous pouvez le faire à tout moment par Internet ou en vous déplaçant en mairie. Imaginons que vous choisissez en position 1 votre meilleur ami, en position 2 le maire de votre commune et en position 3 M. Dupont, membre de l'assemblée précédente. Une proposition associée au thème économie est alors soumise au peuple. L'assemblée réfléchit à la question et s'exprime en argumentant. Vous savez alors que M. Dupont a voté favorablement, que ce soit pour ou très bien selon le type de vote. Pendant une certaine période, comme les autres citoyens, vous pouvez voter et décider de rendre votre vote public ou non. À la fin de cette période, si vous n'avez pas voté directement, mais que votre meilleur ami a voté défavorablement en acceptant de rendre son vote public, vous êtes informé que votre vote est temporairement défavorable. Si votre meilleur ami n'avait pas voté ou de manière secrète et que votre maire a voté publiquement, c'est le vote de votre maire qui vous sera attribué temporairement. Si ni votre ami ni votre maire n'a voté publiquement, alors c'est le vote de M. Dupont qui vous est attribué. Au terme de cette étape, vous êtes informé du vote qui vous est attribué. Si ce vote ne vous convient pas, alors vous pouvez voter directement. C'est votre vote qui remplacera le vote qui vous avait été attribué. La force de la démocratie liquide est de respecter la démocratie puisque le citoyen conserve son pouvoir de décision. Mais cela permet de profiter de la simplicité du système parlementaire puisque le citoyen peut décider de faire confiance à son représentant et ne pas s'intéresser à tous les votes. La désignation est également respectueuse, puisque le citoyen choisit le représentant de son choix et ne se voit plus imposer le gagnant à une élection. Elle est donc préférable au système actuel pour les personnes exclues du numérique, car plus respectueuse, et elle est largement bénéfique aux personnes compétentes avec les outils numériques. Voilà pour la démocratie liquide. L'explication a pu paraître compliquée, mais en pratique, c'est très simple. Ensuite, je vais vous parler de la démocratie partagée. Elle consiste à répartir les réflexions parmi l'ensemble de la population. Aujourd'hui, les réflexions occupent les esprits des députés, de leurs assistants, des conseillers, des employés des lobbies, toutes ces personnes centralisées dans un espace restreint à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris. En démocratie partagée, on prend les différentes problématiques actuelles et on les assigne de manière aléatoire aux citoyens. Il peut y avoir plusieurs étapes. Un premier groupe va réfléchir aux solutions, puis un second pourra travailler sur l'argumentaire des solutions du premier groupe, et enfin un dernier groupe pourra travailler sur l'évaluation préalable des solutions à la lumière de l'argumentaire. C'est un système d'assemblée citoyenne permanent, réparti sur tout le territoire. Chaque citoyen aura alors le sentiment d'être impliqué directement dans les décisions et de pouvoir agir davantage. Les sujets sont à tous les niveaux, quartier, mairie, régional, national, européen. C'est une manière d'éviter la politique de carrière et de permettre à tout le monde de participer. Parlons désormais de la démocratie consensuelle et de manière générale, les systèmes mixtes consensuels. La problématique est la suivante. Un groupe majoritaire à une date spécifique ne doit pas forcément imposer aux autres groupes des mesures qui leur sont défavorables. D'autre part, une bonne mesure doit être consensuelle et doit être acceptée indifféremment, quel que soit le groupe de profil des personnes. Si l'on répartit la population en groupes de profil, les femmes, les hommes, les jeunes, les plus vieux, les actifs, les inactifs, les milieux sociaux différents, une mesure consensuelle doit collecter dans chacun des groupes un minimum d'adhésion. Par exemple, nous pouvons définir un seuil minimum de 30% dans chaque groupe et un seuil de 60% en général pour qu'une proposition soit acceptée. Nous pouvons également imaginer que le seuil minimum par groupe est fixé en fonction du résultat général. Par exemple, une approbation générale de 75% permet de descendre le seuil par groupe à 25%. Un système mixte consensuel correspond à plusieurs systèmes politiques qui coexistent. La démocratie et le système parlementaire, par exemple. Elle impose que les deux entités soient en accord pour que la loi soit validée. C'est une solution intéressante en démocratie si on estime que l'éducation populaire est insuffisante et que l'on veut protéger le système de dérives populistes. Elle doit être combinée alors à un effort pour assurer une instruction publique à tous et de qualité. Enfin, évoquons ensemble le mode de scrutin et le vote. J'ai déjà évoqué le flou qui existe sur les raisons du vote. Pour une personne, un programme, des valeurs. Mais je n'ai pas parlé de la médiocrité du mode de scrutin. Le scrutin majoritaire à deux tours, par exemple, cultive les radicalités, les oppositions et la frustration et permet une perte de représentation. En outre, au premier tour, il a cultivé le principe du vote utile et au second tour, cultive le principe du vote contre. Prenons l'exemple de la présidentielle de 2002, où le Front National est arrivé au second tour à la place de la gauche, alors que les scores cumulés de la gauche étaient supérieurs, créant à l'époque une grande indignation. Suite à cela, Jacques Chirac a été élu à plus de 80% et s'est estimé légitime pour décider de tout pendant son mandat. Mais le vote, c'est la conclusion d'un processus intellectuel qui vise à évaluer le bien-fondé d'une proposition, d'une loi, d'une candidature. Il n'a de valeur que si l'objet du vote a été analysé. Cette analyse requiert du temps, beaucoup plus que la simple action de voter. Aujourd'hui, quand l'électeur va voter, il se déplace et il passe par les étapes de vérification d'identité, émargement, isoloir. Le système actuel résume le vote à la plus simple expression. Le vote blanc n'est pas pris en compte, le choix est binaire, il ne peut choisir qu'un seul candidat. Et si l'on propose un système plus complexe, le pouvoir en place s'écrie que c'est trop compliqué. Cependant, un résultat de vote simple sur une question complexe donne souvent un résultat flou. La question est-elle bien posée? Est-elle urgente? Est-elle importante? Quel budget doit-on engager pour la mettre en place? Y a-t-il d'autres alternatives? Les politiciens argumenteront qu'il y a eu un débat, que les citoyens pouvaient poser leurs questions et s'exprimer pendant le débat. La vérité est bien sûr tout autre. Les questions auront été choisies, les temps d'échange réduits, le débat orienté et les réponses à côté. On parle du vote utile, mais il faudrait peut-être penser comment améliorer l'utilité du vote. Le jugement au scrutin majoritaire est, par exemple, beaucoup plus intéressant que le scrutin à deux tours. Un vote respectueux, c'est aussi un vote qui ne fait pas disparaître une partie de la population. Les élections avec un unique gagnant ne cultivent pas la culture du consensus. En conclusion, la démocratie liquide permet de mieux respecter les citoyens. La démocratie partagée permet de mieux impliquer les citoyens. La démocratie consensuelle permet de mieux protéger les citoyens et un mode de scrutin amélioré permet de mieux écouter les citoyens. Voici quelques premières pistes pour commencer à travailler ensemble. Des premières idées sont là, il y en a d'autres, il nous faut désormais les moyens. Pour cela, nous vous proposons de mandater au moins 5 personnes, aidées de leurs assistants, en accordant 5% à la liste change-europe.eu aux élections européennes. Inscrivez-vous sur change-europe.eu et le jour de l'élection, si nous sommes candidats, imprimez votre bulletin de vote à la maison pour le glisser dans l'urne. Merci pour votre temps. Partagez ces informations à vos proches, car ce qui importe, ce sont les idées. Et c'est une des rares choses qui se multiplient quand on les partage. Alors soyez généreux et allez-y de bon cœur.